Thomas Nagy.
Bonjour, un déluge a frappé le Val-de-Ruz la nuit passée. De violents orages ont causé d'importantes inondations. L'eau est montée à plus d'un mètre par endroit. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. On fait le point sur la situation dans ce journal. Après 4 ans d'absence, Stand d'été fait son retour à Moutier. Le festival de musique démarre ce soir et se tiendra jusqu'au 6 juillet. Pour en parler, son président Alain Tissot est l'invité de ce journal. La mobilisation se met en marche à Belfort pour protester contre le plan de licenciement annoncé par General Electric. Plusieurs milliers de personnes sont attendues en France voisine. La marche commencera dès 14h. Ce samedi, le temps restera changeant et instable. Quelques averses orageuses pourront éclater durant l'après-midi. Mais le beau devrait faire son retour dès demain. Le thermomètre affichera jusqu'à 26 degrés. L'orage a durement frappé le Val-de-Ruz hier soir. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Elle a dû être transportée à l'hôpital de Lille à Berne. La rivière a débordé entre Dombresson et le Paquier sur la route qui mène au Bugnonnet-Savanières. Le torrent a emporté des dizaines de voitures. À Dombresson, le Rue Chasseran qui traverse la localité est sorti de son lit et a tout balayé sur son passage. Ce matin, c'est un paysage de désolation. Les précisions d'Adrien Juvet.
C'est un paysage de désolation qui règne dans une partie du Val-de-Ruz. La nuit dernière, l'orage a fait gonfler le ruisseau de Dombresson et Villiers, le Rue Chasseran. L'eau montait à plus d'un mètre dans les rues de ces localités. Plusieurs personnes ont dû être dégagées de leurs voitures qui se sont retrouvées dans le lit de la rivière ou retournées sur le toit. En plus des 4 blessés, 7 autres personnes ont été soignées et contrôlées sur place par les services sanitaires. Plusieurs dizaines de bâtiments ont subi des dégâts très importants. Les caves, les garages souterrains et même les rez-de-chaussée de certaines maisons ont été entièrement inondés. La route entre Dombresson et le Paquier à par endroits a été détruite. Ce tronçon restera fermé au trafic durant plusieurs jours. Hier soir, 2 hélicoptères de la Réga sont intervenus ainsi qu'un hélicoptère de l'armée. Désormais, la priorité est de rechercher d'éventuelles personnes portées disparues et de dégager des habitants dont les portes des maisons sont encore bloquées par les gravats et la boue. À l'aide d'un hélicoptère et d'un drone, la police et les secours sont actifs pour rechercher d'éventuelles personnes en difficulté, mais aussi pour se faire une idée de l'ensemble des dégâts.
À Dombresson, comme à Villiers, les habitants sont consternés. Écoutez le témoignage de cet habitant de Villiers, Eric Rizer.
J'habite tout en haut. On a eu de la chance de ce côté-là. Notre appartement n'a rien. Par contre, les caves, tout a été inondé. On a quasi un mètre d'eau, en fait. Mais en fait, j'ai déjà vu derrière hier soir, parce que j'étais chez des amis juste au-dessus de Villiers. Puis on était tranquillement en train de bricoler des avions et puis on entendait qu'il pleuvait. Et je devais aller chercher la fille à 11h à Neuchâtel. Et en fait, en descendant dans le milieu du village de Villiers, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer parce que la route principale, c'était en fait, c'était même plus une rivière, c'était carrément un torrent. Ouais, exactement.
Vous étiez en voiture à ce moment-là ?
J'étais en voiture, oui.
Vous avez eu peur, hein ?
Alors oui, quand je suis arrivé vers le carrefour, oui, effectivement, je me suis arrêté, il y avait déjà des gens qui étaient là, non, va pas, puis c'était vraiment le torrent, quoi. Alors, je ne suis pas allé, parce que de toute façon, c'était en tout cas pas praticable, c'était même mortel, quoi. Je veux dire, il ne fallait pas que quelqu'un se retrouve là-dedans, parce que je pense que ça aurait mal fini.
Des propos recueillis par Claire Vigère, retrouvez des photos et des vidéos des événements sur notre site internet. Un homme blessé par balle a été découvert dans sa voiture par les gardes frontières jurassiens hier soir à Chevenay. Les agents sont tombés nez à nez avec l'homme grièvement blessé lors d'un contrôle routier, Cyprien Louvi.
Et tout cela s'est passé vers 19h hier soir en Ajoie. Les gardes frontières procédaient au contrôle d'un véhicule immatriculé en Allemagne au giratoire de la sortie de l'autoroute A16 près de Chevenay. Ils ont alors constaté qu'un des 2 occupants de la voiture était grièvement blessé par balle. Le communiqué de la police jurassienne précise que l'homme a été transporté par la Réga à l'hôpital universitaire de Bâle. Pour l'heure, le ministère public ne souhaite pas donner plus d'informations. Il précise simplement qu'une enquête menée conjointement avec la police jurassienne est en cours.
Les festivités des 40 ans du canton du Jura battent leur plein. Alors que la journée d'hier était dédiée aux écoliers, une randonnée de 15 km est organisée aujourd'hui entre Glovelier et Saint-Ursanne. Une plaque commémorative a été inaugurée il y a quelques instants à la borne des 3 districts sur les hauteurs de Seux. Retrouvez un reportage ce soir dans notre journal de 18h. Stand d'été trépigne d'impatience. Après 4 ans d'absence, le Festival des Arts de la Seine est de retour à Moutier. Coup d'envoi ce soir avec l'opéra de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Parmi les têtes d'affiche qui se produiront à l'ancien stand de Moutier jusqu'au 6 juillet, on retient le chanteur belge Arnaud et l'humoriste Michel Boujna. À quelques heures du début du festival, nous sommes en direct avec celui qui tire les ficelles de la manifestation, le président du comité d'organisation, Alain Tissot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Stand d'été revient donc après 4 ans et une pause due aux incertitudes liées au vote communaliste de Moutier. Ce retour, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Oh ben, c'est d'abord une très très bonne nouvelle. C'est beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que le fait d'avoir dû zapper 2017 était assez douloureux. Il nous a paru très dangereux en fait de faire ça. On n'avait pas le choix, mais on a un peu craint pour la pérennité du festival. Et puis heureusement, il y a eu beaucoup de discussions avec les représentants des cantons, de la ville. Et puis voilà, on est là aujourd'hui et on est prêt à démarrer la fête. Donc c'est vraiment, vraiment bien, quoi.
Le festival, il se déroule donc à l'ancien stand. C'est un cadre un peu atypique pour des spectacles tels que l'opéra, par exemple. Quelle est l'influence du lieu sur le festival ?
Alors le lieu est le cœur du festival. C'est même la raison d'être de ce festival, en fait. Donc l'influence, elle est gigantesque parce que l'opéra, par exemple, vous en parliez... au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était typiquement ce genre de salle de jauge, donc de grandeur, qui était mis à disposition des opéras. Donc ça avait été écrit pour des formules comme ça. Et après, ce qu'on programme en fait dans le cadre du festival, prend en compte le bâtiment. On se dit, voilà, on a ce bâtiment, ce volume, cette acoustique, qu'est-ce qui va entrer en harmonie avec ça ? Et c'est à partir de là qu'on choisit les artistes.
Et s'il fallait décrire cette édition, quelle est la couleur, quelle est l'ambiance de cette programmation ?
Bon, alors là, maintenant, je peux vous dire que je suis sur l'esplanade, donc c'est une fourmilière, ça court de tous les côtés, il y a tout qui se met en place, ça c'est maintenant. Après, les choses vont se poser, les couleurs vont commencer à apparaître, la lumière va s'allumer. Je mettrais ça sous le drapeau du trait d'union, déjà, entre les différents styles, une sorte de festival éclectique. Voilà, on va vraiment passer de l'opéra au hip-hop, on va passer du jazz à la musique classique, c'est un grand écart comme ça aussi. Tiens, j'ai déjà utilisé ce terme, c'est marrant, parce que voilà, c'est toujours assez large. L'endroit est petit et on fait quelque chose de très large. Donc on va trouver des gens qui viennent de tous les milieux culturels et pareil au niveau du public.
Il y aura de la musique, du théâtre, de l'humour et vous avez un coup de cœur parmi la programmation.
Bah, j'en ai une quinzaine, mais si je dois sortir quelque chose aujourd'hui, à part l'opéra que j'ai découvert hier soir et qui est magnifique, je parlerai peut-être de Christian Zacharias qui va venir dans une semaine jouer sur Steinway Day. Un répertoire Schubert, Beethoven, Scarlatti, ça va être magnifique. Et peut-être une semaine plus tard, Sly Johnson, André Ceccarelli, qui vont, eux, proposer quelque chose de totalement opposé, une musique, justement, hip-hop. Donc voilà, c'est hip-hop jazz, je dirais. C'est peut-être deux coups de cœur qui sont opposés, mais qui montrent assez bien la complémentarité de la programmation.
Alain Tissot, je rappelle que vous êtes donc le président du comité d'organisation de Stand d'été. Merci d'avoir été en direct avec nous. Stand d'été, ça démarre donc ce soir à Moutier. Le festival se poursuit jusqu'au 6 juillet à l'ancien stand. Toute la France va regarder Belfort cet après-midi. Syndicats et élus locaux appellent toute la population du Nord-Franche-Comté à manifester dans les rues de Belfort. Objectif, la sauvegarde des emplois chez General Electric. Un plan social prévoit la suppression de 1050 postes dans le territoire de Belfort, essentiellement dans la division turbine à gaz. Le rassemblement a lieu devant la Maison du Peuple avant un défilé jusqu'à la préfecture. Les salariés sont déterminés à faire de cette marche un grand succès. Nicolas Willem.
Il y a 3 ans, Belfort s'était mobilisé pour sauver Alstom. 5000 personnes avaient défilé dans les rues. Les salariés de GE espèrent faire plus que la manif du 24 septembre 2016. Jérôme travaille aux turbines à gaz depuis 30 ans.
Ça motive les troupes. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu plus à l'extérieur, mais qui se rendent compte qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc on verra. On ira jusqu'au bout de toute manière. J'ai 30 ans d'ancienneté. J'ai commencé au CFA à Alstom. Et donc j'ai été racheté par General Electric. Et puis voilà où c'est qu'on en est, quoi. Je sais pas, là c'est trop flou pour le moment.
Pour Stéphane, 40 ans d'ancienneté chez General Electric, tout le monde doit se mobiliser.
Il y a beaucoup de gens qui vont être touchés, la région, les commerçants, les sous-traitants, nous, nos familles, enfin, l'immobilier, tout ce que vous voulez, tout va être touché, va être impacté par ce plan de licenciement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des gens qui, au nom de la finance, magouillent, ferme des usines, désindustrialise le pays. C'est pas possible. On doit garder nos emplois, on doit garder notre fierté.
Derrière ce plan social, il y a une volonté de la direction de fermer l'usine, alerte un autre salarié qui appelle toute la population du Nord-Franche-Comté à venir soutenir le combat pour l'emploi.
Des propos recueillis par notre confrère de France Bleu, Belfort-Montbéliard, Nicolas Wilhelm. Les tensions s'accroissent au Moyen-Orient. L'armée iranienne a averti ce matin les États-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région. Le président Donald Trump a affirmé hier avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain. Mais il maintient tout de même ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone américain. Sport. Jérémy Pignard pour le tour de l'actualité sportive. La fièvre du sport automobile s'est emparée de la capitale fédérale.
Oui, parce que la Formule électrique, la Formule E, débarque à Berne aujourd'hui. Le e-prix de Suisse se déroule dans la cité des bords de l'Aar après Zurich l'an dernier. C'est la deuxième fois que la Suisse accueille une course du championnat de Formule électrique. Les organisateurs s'attendent cette année encore à un gros succès populaire, François Comte.
Pas moins de 120 000 spectateurs sont attendus ici à Berne. Les tribunes payantes étaient encore clairsemées ce matin lors des essais libres. Mais les spectateurs étaient déjà nombreux aux places gratuites debout le long de la piste. Il faut dire que le spectacle est particulièrement impressionnant avec des bolides qui peuvent tout de même atteindre les 280 km/h. Le circuit tracé dans les rues de Berne est d'ailleurs plutôt rapide avec notamment une descente à couper le souffle vers la fosse aux ours. La formule électrique n'a toutefois pas encore réussi à conquérir tous les cœurs à Berne. Une manifestation de cyclistes a causé quelques dégâts jeudi soir et le premier contact des pilotes avec la piste hier après-midi a été décalé d'une heure, le temps de tout remettre en place. Côté sportif, les choses sérieuses démarreront cet après-midi avec les qualifications dès 13h30, puis la course dès 18h04. Deux Suisses sont en lice parmi les 22 pilotes au départ. Sébastien Buemi et Eduardo Mortara comptent bien briller sur leur terre, même s'ils ne font pas forcément partie des tout grands favoris. Quoi qu'il en soit, Berne n'a plus connu de course automobile sur circuit depuis 1954 et le Grand Prix de Suisse de Formule 1 qui s'était tenu près d'ici à Bremgarten. De quoi peut-être décupler la motivation des deux pilotes helvétiques.
François Comte qui suit pour nous cet e-prix à Berne lors de la première séance d'essais libres ce matin. C'est le Français Jean-Éric Vergne qui a signé le meilleur temps. Début des qualifications, vous l'avez entendu, c'est à 13h30. Des nouvelles rassurantes pour Geraint Thomas, le cycliste gallois vainqueur du dernier Tour de France, est remonté sur le vélo hier. Il avait lourdement chuté, souvenez-vous, mardi sur le Tour de Suisse qu'il avait contraint à l'abandon. Il devrait donc pouvoir s'aligner sur la grande boucle début juillet, dont il sera l'un des principaux favoris. L'Égypte de Mohamed Salah a réussi son entrée en Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile hier. Les Pharaons ont battu le Zimbabwe 1-0 en match d'ouverture. Autre compétition continentale qui se déroule en ce moment, la Copa América. Le Chili a validé hier soir son billet pour les quarts de finale. Deuxième victoire en deux matchs pour les Chiliens qui ont battu l'Équateur 2-1. Seule équipe avec la Colombie à être déjà qualifiée pour les quarts. Toujours en football, les filles du FC Keuve joueront la saison prochaine le tour principal de la Coupe de Suisse. C'est l'équipe féminine la plus fair-play du pays, ce qui lui permet de décrocher ce ticket. Elle pourrait donc affronter une équipe de l'élite au premier tour. Roger Federer jouera cet après-midi pour une place en finale du tournoi de tennis sur gazon de Halle en Allemagne. Le Ballois affronte le Delémontain d'adoption, le Français Pierre Hugerbert. Match à 15h30 et Belinda Bencic chez les dames jouera aussi une place en finale à Majorque face à l'Allemande Angélique Kerber. Le coup d'envoi à 17h30. Gros test pour le SHC Ajoie cet après-midi en Ligue Nationale A d'Inline Hockey. Les Ajoulots actuellement 8e accueillent le 2e Rotriste à 16h30. Une victoire permettrait aux joueurs de Fontenay de prendre leur distance sur le bas du classement et de revenir à un point du 7e Malcantone. Hier soir c'était le derby biennois. Les Bienselanders ont largement dominé l'ISH Bienne 12-4. Et on l'apprenait hier soir également, trois nouvelles joueuses débarquent au volleyball Franche-Montagne. Le club jurassien a engagé pour la saison prochaine la bosnienne Milana Bozic et deux américaines, Emmaline Willis et Naya Krittenden. Le VFM cherche encore deux joueuses, une centrale et une ailière pour compléter son effectif.
L'actualité en tout temps sur rfj.ch et sur votre Android et iPhone grâce à l'application RFJ. La météo pour ce samedi avec un temps qui reste très changeant et instable, un ciel partagé entre de nombreuses formations nuageuses et de belles éclaircies. Les températures seront tout de même agréables, 21 du côté de Moutier, 22 à Delémont, 21 à Port-en-Truy ou encore 18 à Seine-Légier, 18 à La Chaux-de-Fonds. Un ciel soleil qui probablement sera plus généreux en seconde partie de journée et des averses déjà possibles qui vont se réactiver et vont provoquer peut-être un caractère orageux dans l'après-midi à surveiller. Précipitations peu mobiles avec donc très localement de fortes accumulations possibles. Là aussi, il va falloir être vigilant. Pour demain, dimanche, bande de nuages bas en début de matinée, plus nombreux et étendus sur le nord du massif. Passage à un temps bien ensoleillé en cours de matinée se poursuivant l'après-midi et des températures chaudes. Développement de petits cumulus inoffensifs sur les crêtes. Et puis la semaine prochaine, il va falloir composer avec la canicule de mardi à vendredi. Des conditions bien ensoleillées, très chaudes, voire torrides, avec des maximales avoisinant vent, voire dépassant les 30 degrés vers 1000 mètres d'altitude. Le risque d'orage sera nul. Épisode de canicule remarquable ainsi confirmé. Et le soleil de et très forte chaleur persistant, donc probablement le week-end prochain encore.